Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des assemblées générales, avec le coup d'envoi ces derniers jours de la grande saison de ces rendez-vous de démocratie actionnariale. Et comment ces assemblées générales peuvent être un levier de création de valeur pour les entreprises. Nous en parlons avec Caroline Roellan, qui est à mes côtés en plateau, présidente notamment de Songe Conseil, présidente également du Cercle des administrateurs. Vous êtes spécialiste des sujets de gouvernance. Caroline, bonsoir.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être avec nous. Parlait justement de la gouvernance lors de votre précédente intervention. L'idée, c'est d'aller regarder ce qui se passe dans les assemblées générales aujourd'hui, mais quand on regarde un petit peu dans le passé, pendant longtemps, très longtemps même peut-être, les assemblées générales ont été perçues comme des chambres d'enregistrement pour les résolutions proposées, laissant assez peu de place, notamment à ce qu'on appelle les actionnaires minoritaires. Et puis les choses ont évolué et les choses ont même changé ces dernières années, Caroline.
Profondément, je pense qu'il est intéressant de comprendre ce qui se joue en Assemblée Générale avec peut-être une perspective historique. Ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que très longtemps, finalement, les entreprises étaient habituées à ce que les actionnaires, notamment minoritaires, ne soient pas très présents et finalement, leur seul moyen de vraiment contester la stratégie ou une déception boursière, c'était de vendre leurs actions, donc de sortir. Et puis, avec le temps, on observe un changement de paradigme qui est assez récent, qui date d'une dizaine d'années environ. Changement de paradigme qui est extrêmement puissant parce qu'en réalité, il a mené à un déplacement, on va dire, du centre de gravité plutôt au bénéfice des actionnaires et en vertu duquel les entreprises maintenant se déploient dans un paradigme de redevabilité et de transparence. Redevabilité qui veut dire concrètement que les investisseurs attendent des dirigeants qu'ils rendent des comptes notamment dans le moment très privilégié qu'est l'Assemblée Générale, mais pas uniquement, également en dehors des Assemblées Générales. Et il est vrai que désormais les Assemblées Générales sont le moment de cristallisation d'une certaine façon de cette nouvelle relation actionnariale. Et là, comment font-ils? Très concrètement, finalement, ils utilisent une boîte à outils qui a toujours existé, qui était à leur disposition depuis longtemps. Le dépôt de résolution, les questions écrites, les questions orales, éventuellement l'incident de séance. Bref, autant de moyens qui leur permettent d'exercer une influence et de demander des comptes aux dirigeants. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre en réalité la montée en puissance du phénomène activiste que l'on observe depuis une dizaine d'années.
Mais qu'est-ce qui a changé du coup? Puisque vous le dites, Caroline, la boîte à outils pour les actionnaires minoritaires, elle a toujours existé. Sauf que eux se limitait à, si je ne suis pas content, je vends l'action, circuler, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce qui a changé du point de vue de ces actionnaires minoritaires qui font qu'ils vont utiliser une boîte à outils qui était déjà à leur disposition auparavant?
Alors d'abord, il y a une évolution de réglementation, c'est-à-dire que alors même qu'ils n'utilisaient pas ces droits, ils sont devenus objets de protection avec le temps. D'ailleurs, on est passé du narratif d'actionnaire à celui d'épargnant. Et puis, il y a une catégorie d'actionnaires minoritaires, notamment des fonds d'investissement qui sont très professionnels, qui ont les moyens financiers, les moyens humains, les moyens de compréhension industrielle et qui ont décidé de rentrer d'une certaine façon dans l'arène et d'exercer une influence. Et le phénomène activiste, en réalité, se décrit comme une catégorie d'actionnaires qui souhaitent exercer une influence et donc participer au devenir de l'entreprise. Alors la vraie question qui se pose est de connaître leurs ressorts profonds, car il peut y avoir des ressorts qui sont plus ou moins louables, mais leur démarche s'inscrit dans cette évolution de redevabilité et de volonté de participer au futur de l'entreprise. Et de manière très intéressante, quand on voit les chiffres, notamment sur 2023, on constate une augmentation significative des campagnes activistes, plus 15%
en Europe, c'est ça ?
En Europe, ouais. Absolument. Et surtout, de manière très intéressante, on constate 46% de primo-activistes. En réalité, ce ne sont pas nécessairement des fonds activistes, mais ce sont des fonds d'investissement, des family office, même parfois des acteurs du private equity, qui ont décidé d'utiliser d'une certaine manière des postures activistes pour exercer une influence. Donc on voit bien que le phénomène activiste dépasse très largement la seule population des fonds que l'on nomme comme tel, et que c'est finalement devenu un modus operandi d'un certain nombre d'investisseurs qui souhaitent influencer le futur de l'entreprise.
On constate cette professionnalisation effectivement hein, chez des sociétés de gestion d'actifs de grande taille notamment, mais de taille moyenne également, qui ont du personnel dédié aujourd'hui à ce qu'on appelle l'engagement, le stewardship. Et d'ailleurs, ces gens-là m'expliquent que généralement, la vraie négociation ne se fait pas au moment de l'Assemblée générale, qui reste aussi un théâtre de la démocratie actionnaire, mais que c'est entre les saisons d'AG que tout se joue. Est-ce que l'activisme le plus efficace, c'est celui qui ne se voit pas, Caroline,
de ce point de vue-là ? Évidemment, d'abord, on ne peut que militer dans ce sens, parce que c'est celui-ci qui ne se voit pas et c'est celui-ci qui ne fait pas de dommage à l'entreprise. Une campagne activiste a toujours des conséquences, ne fût-ce qu'en termes de réputation, elle fragilise l'émetteur, donc on ne peut pas le souhaiter. C'est une vraie décharge de difficile pour l'entreprise à vivre et il faut le reconnaître. En revanche, tout ce dialogue, tout cet engagement que vous évoquez très justement et qui n'est plus le fait uniquement des activistes, mais également de beaucoup d'investisseurs institutionnels qui ont désormais des équipes dédiées à ce dialogue et à cet engagement, il est majeur parce qu'on réalise... En fait, la lame de fond, me semble-t-il, est la suivante, c'est... de faire en sorte que l'émetteur tisse un lien de qualité avec son actionnariat, qui reste d'une certaine manière son meilleur actif. Et d'ailleurs, pour preuve, c'est que les entreprises qui n'ont pas un socle actionnarial solide, qui n'ont pas notamment un actionnaire de référence, sont bien plus vulnérables en temps de crise. Donc il y a toute cette relation qui peut parfois être plus ou moins conflictuelle, mais qui devrait s'inscrire dans une logique plus de partenariat, et tout ça dans l'intérêt social bien compris.
Est-ce qu'aujourd'hui, j'allais dire, le moindre actionnaire minoritaire peut se transformer en actionnaire activiste ou actionnaire engagé? Je ne veux pas utiliser le terme activiste qui est très connoté en France, mais moi, je n'ai pas de connotation particulière derrière ce mot. Sachant qu'en face de ça, alors vous parliez de la redevabilité, effectivement, des entreprises vis-à-vis de leurs actionnaires. Il y a ce risque de réputation qui est monté, qui devient un des risques principaux, peut-être, aujourd'hui, dans certaines industries, pour certains secteurs. Est-ce que là, c'est un vrai levier, justement, pour des actionnaires minoritaires qui reste minoritaire?
Alors votre point est très important parce qu'il faut quand même pas perdre de vue qu'il y a en principe une corrélation entre la participation dans le capital social et le pouvoir que le droit vous reconnaît. Voilà. Et d'ailleurs, dans l'une des évolutions très significatives que l'on constate depuis une dizaine d'années et qui a participé à la montée en puissance du phénomène activiste, c'est que finalement, ces actionnaires minoritaires ne se contentent plus d'un traitement purement capitalistique de leur participation. En d'autres termes, ils n'acceptent plus de se faire opposer comme argument. Vous ne représentez que 0,000 et par conséquent, votre influence, votre pouvoir d'influence doit être limité à 0,0. Donc on voit que là il y a quelque chose qui se joue, qui n'est pas d'ailleurs sans poser une certaine difficulté, puisque il y a quand même au final le risque social. Donc est-ce qu'il est très légitime qu'une personne avec un 0,0 puisse mettre challenger un émetteur? C'est une vraie bonne question. Peut-être que la réponse est la qualité du dialogue et la qualité des alternatives qu'il peut mettre sur la table ou de propositions.
Est-ce que vous avez un exemple d'entreprise ou de sujet sur lesquels des actionnaires minoritaires en campagne ont pu exercer une influence majeure, Caroline?
Je pense qu'il y a le dossier Lagardère, hein, qui est un très bon exemple, où le fonds d'investissement Amber Capital a mené une vraie bataille, une longue campagne activiste qui a duré plusieurs années. Il y a eu notamment sur deux assemblées générales. Et donc, un investissement de plusieurs années également, et on peut considérer que c'est cette persistance qui a fini par faire bouger les lignes et modifier en profondeur et la gouvernance, et voilà. Donc il y avait aussi un alignement de facteurs qui a permis cette réalisation, mais c'est un exemple très concret et qui, je pense, a beaucoup marqué la place de Paris.
Quand vous voyez, alors là, peut-être dans une dimension beaucoup plus médiatique, quand vous voyez la cristallisation ou le degré de focalisation que certaines assemblées générales d'entreprises emblématiques peuvent susciter, l'exemple français étant évidemment Total Energy, Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça permet un bon fonctionnement, justement, de la démocratie actionnaire? Est-ce que ça veut dire que l'Assemblée générale de Total, qui cristallise beaucoup d'attention et de tension aussi peut-être, c'est un vrai moment de création de valeur pour l'entreprise, pour reprendre l'expression? Ou est-ce qu'il y a un moment où ça peut devenir contre-productif?
Alors, c'est une question compliquée parce que le sujet est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Total Énergie est très exposée, notamment et au premier chef, en conséquence de l'industrie dans laquelle ce groupe se déploie, parce qu'il y a effectivement des ONG qui ont été assez actives, parce qu'il y a des sujets de dépôt de résolution, parce que la question de soumettre aux actionnaires le plan pour consultation. Donc toutes ces questions cristallisent. Je trouve toujours important finalement que les acteurs puissent échanger. Moi, la ligne rouge, c'est que finalement la victime ne soit pas l'entreprise. Il y a la création de valeur, il y a des enjeux qui sont très importants. Et d'ailleurs, de manière quand même très significative, dans cette vague de cette saison des assemblées générales, on constate malgré tout que les investisseurs, alors même qu'ils ont été très attentifs et restent attentifs aux vecteurs et aux enjeux de environnementaux, notamment climat, restent encore très attachés à la valeur financière, à la performance opérationnelle, à la trajectoire boursière. Donc en réalité, là où les choses deviennent compliquées, c'est qu'on attend des entreprises qu'elles créent à la fois de la valeur financière et qu'elles créent la valeur extra-financière. Donc pour revenir à Total, c'est là où les choses deviennent complexes. Voilà.
Un des sujets de l'Assemblée générale de Total cette année va être la dissociation des fonctions de président et directeur général. Intéressant, hein, on part de sujets climatiques et on en arrive à un sujet de gouvernance.
Alors d'abord, les sujets climatiques et les sujets de gouvernance ne sont pas si éloignés de l'un de l'autre, car c'est la gouvernance qui décide de porter le climat, puisque le climat fait partie intégrante, me semble-t-il, de la stratégie.
Je vous renvoie à notre précédente intervention à retrouver sur bismart.fr, gouvernance et création de valeur.
Absolument. Donc ça, la première remarque. Et quant à la dissociation, j'avais eu l'occasion également de m'en entretenir avec vous. Moi, il me semble que cette demande de dissociation n'est pas en tant que telle, a pas forcément pour objet directement la demande de dissociation, mais peut-être d'attirer l'attention sur la gouvernance. Et ça peut être compris comme un moyen détourné de remettre au centre du jeu finalement la question du climat. Donc il faut peut-être la comprendre au second degré et pas de manière immédiate. Et je continue de penser que la dissociation exige beaucoup de conditions pour qu'elle fonctionne très bien, dissociation de fonctions entre présidence et direction générale. Donc là aussi c'est un modèle qui est idéal, mais qui exige un certain nombre de conditions et d'exigences pour qu'il soit vertueux.
Pour conclure, Caroline, quel est le rôle de Songe Conseil dans cet équilibre de la démocratie actionnariale que sont les assemblées générales ?
L'équilibre, précisément, l'équilibre. L'équilibre, car on parle beaucoup, notamment dans le contexte de la loi attractivité qui est en discussion, on parle beaucoup de mettre en avant un certain nombre de sujets, les droits de vote multiples, et notamment. Moi, je pense que tout est une question d'équilibre. Pour que la place de Paris demeure et attractive et compétitive, il faut certes préserver les émetteurs, il faut aussi laisser la place aux investisseurs et que chacun trouve s'y retrouve dans un équilibre et dans une relation de partenariat.
Merci beaucoup Caroline. Caroline Aurélien qui était l'invitée de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, présidente de Songe Conseil.